Chapitre 17, Illusion retrouvée, secret perdu, le débiteur et le créancier. À peine M. de Calonne traversait-il la galerie pour retourner chez lui, que l'ongle d'une main pressée gratta la porte du boudoir de la reine. Jeanne parut. « Madame, dit-elle, il est là. » « Le cardinal ? » demanda la reine, un peu étonnée du mot « il » qui signifie tant de choses prononcées par une femme. Elle n'acheva pas. Jeanne avait déjà introduit Monsieur de Rohan et pris congé en serrant à la dérobée la main du protecteur protégé. Le prince se trouva seul à trois pas de la reine, à laquelle il fit bien respectueusement les saluts obligés. La reine, voyant cette réserve pleine de tact, fut touchée. Elle tendit la main au cardinal, qui n'avait pas encore levé les yeux sur elle. « Monsieur, dit-elle, on m'a rapporté de vous un trait qui efface bien des torts. « Permettez-moi, dit le prince en tremblant d'une émotion qui n'était pas affectée, permettez-moi, madame, de vous affirmer que les torts dont parle votre majesté seraient bien atténués par un mot d'explication entre elle et moi. « Je ne vous défends point de vous justifier, répliqua la reine avec dignité, mais ce que vous me diriez jetterait une ombre sur l'amour et le respect que j'ai pour mon pays et ma famille. » Vous ne pouvez vous disculper qu'en me blessant, monsieur le cardinal, mais tenez, ne touchons pas à ce feu mal éteint, peut-être il brûlerait encore vos doigts ou les miens. Vous voir sous le nouveau jour qui vous a révélé à moi, obligeant, respectueux, dévoué jusqu'à la mort, interrompit le cardinal. À la bonne heure, mais, fit Marie-Antoinette en souriant, jusqu'à présent il ne s'agit que de la ruine. Vous me seriez dévoué jusqu'à la ruine, monsieur le cardinal, c'est fort beau, bien assez beau. Heureusement, j'y mets bon ordre. Vous vivrez, et vous ne serez pas ruiné, à moins que, comme on le dit, vous ne vous ruiniez vous-même. Madame, ce sont vos affaires. Toutefois, en ami, puisque nous voilà bons amis, je vous donnerai un conseil. Soyez économe, c'est une vertu pastorale. Le roi vous aimera mieux économe que prodigue. Je deviendrai avare pour plaire à votre majesté. Le roi, reprit la reine, avec une nuance délicate, n'aime pas non plus les avares. « Je deviendrai ce que votre majesté voudra, » interrompit le cardinal avec une passion mal déguisée. « Je vous disais donc, coupa brusquement la reine, que vous ne seriez pas ruiné par mon fait. Vous avez répondu pour moi, et je vous en remercie, mais j'ai de quoi faire honneur à mes engagements. Ne vous occupez donc plus de ces affaires qui, à partir du premier paiement, ne regarderont plus que moi. » « Pour que l'affaire soit terminée, madame, dit alors le cardinal en s'inclinant, il me reste à offrir le collier à votre majesté. » En même temps, il tira de sa poche l'écrin qu'il présenta à la reine. Elle ne le regarda même pas, ce qui accusait chez elle un bien grand désir de le voir, et, tremblante de joie, elle le déposa sur un chiffonnier, mais sous sa main. Le cardinal essaya ensuite quelques propos de politesse qui furent très bien reçus, puis revint sur ce qu'avait dit la reine à propos de leur réconciliation. Mais comme elle s'était promis de ne pas regarder les diamants devant lui et qu'elle brûlait de les voir, elle ne l'écouta plus qu'avec distraction. Par distraction aussi, elle lui abandonna sa main qu'il baisa d'un air transporté. Alors il prit congé, croyant gêner ce qui la combla de joie. Un simple ami ne gêne jamais, un indifférent moins encore. Ainsi se passa cette entrevue qui ferma toutes les plaies du cœur du cardinal. Il sortit de chez la reine enthousiasmé, ivre d'espérance et prêt à prouver à madame de Lamotte une reconnaissance sans bornes pour la négociation qu'elle avait si heureusement menée à bien. Jeanne l'attendait dans son carrosse, 100 pas en avant de la barrière. Elle reçut la protestation ardente de son amitié. Eh bien, dit-elle, après la première explosion de cette gratitude, serez-vous Richelieu ou Mazarin? La lèvre autrichienne vous a-t-elle donné des encouragements d'ambition ou de tendresse? Êtes-vous lancé dans la politique ou dans l'intrigue? Ne riez pas, chère comtesse, dit le prince, je suis fou de bonheur. Déjà? Assistez-moi, et dans 3 semaines, je puis tenir un ministère. Peste, dans 3 semaines, comme c'est long, l'échéance des premiers engagements est fixée à 15 jours d'ici. Oui, tous les bonheurs arrivent à la fois. La reine a de l'argent, elle paiera. J'aurais eu le mérite de l'intention seulement. C'est trop peu, comtesse. D'honneur, c'est bien trop peu. Dieu m'est témoin que j'eusse payé bien volontiers cette réconciliation au prix de 500 000 livres. Soyez tranquille, interrompit la comtesse en souriant. Vous aurez ce mérite-là par-dessus les autres. Y tenez-vous beaucoup? J'avoue que je le préférerais. La reine est devenue mon obligée. Monseigneur, quelque chose me dit que vous jouirez de cette satisfaction. Vous y êtes-vous préparé? Je fais vendre mes derniers biens et engager pour l'année prochaine mes revenus et mes bénéfices. Vous avez les 500 000 livres alors? Je les ai. Seulement, après ce paiement fait, je ne saurais plus comment faire. Ce paiement, s'écria Jeanne, vous donne un trimestre de tranquillité. En 3 mois, que d'événements, bon Dieu! C'est vrai, mais le roi me fait dire de ne plus faire de dettes. Oh, un séjour de 2 mois au ministère vous mettra tous vos comptes honnêtes. Oh, comtesse, ne vous révoltez pas. Si vous ne le faisiez pas, vos cousins le feraient. Vous avez toujours raison. Où allez-vous? Retrouver la reine, savoir l'effet qu'a produit votre présence. Très bien, moi je retourne à Paris. Pourquoi? Vous seriez revenu au jeu ce soir. C'est d'une bonne tactique. N'abandonnez pas le terrain. Il faut malheureusement que je me trouve à un rendez-vous que j'ai reçu ce matin avant de partir. Un rendez-vous? Assez sérieux, si j'en juge le contenu du billet qu'on m'a fait tenir. Voyez. Une écriture d'homme, dit la comtesse, et elle lut. Monseigneur, quelqu'un veut vous entretenir du recouvrement d'une somme importante. Cette personne se présentera ce soir chez vous, à Paris, pour obtenir l'honneur d'une audience. Anonyme, un mendiant. Non, comtesse, on ne s'expose pas de gaieté de cœur à être bâtonné par mes gens pour s'être joué de moi. Vous croyez? Je ne sais pourquoi, mais il me semble que je connais cette écriture. Allons donc, monseigneur. D'ailleurs, on ne risque pas grand-chose avec des gens qui promettent de l'argent. Ce qu'il y aurait de pis, ce serait qu'ils ne payassent pas. Adieu, monseigneur. Comtesse, au bonheur de vous voir. À propos, monseigneur, 2 choses. Lesquelles? Si par hasard il allait vous rentrer inopinément une grosse somme. Eh bien, comtesse, quelque chose de perdu, une trouvaille, un trésor. Je vous entends, espiègle, par à deux, vous voulez dire. Ma foi, monseigneur, vous me portez bonheur, comtesse. Pourquoi ne vous en tiendrai-je pas compte? Ce sera fait. L'autre chose, à présent, la voici. Ne vous mettez pas à entamer les 500 000 livres. Oh, ne craignez rien. Et ils se séparèrent. Puis le cardinal revint à Paris dans une atmosphère de félicité céleste. La vie changeait de face pour lui, en effet, depuis 2 heures. S'il n'était qu'amoureux, la reine venait de lui donner plus qu'il n'aurait osé espérer d'elle. S'il était ambitieux, elle lui ferait espérer plus encore. Le roi, habilement conduit par sa femme, devenait l'instrument d'une fortune que désormais rien ne pourrait arrêter. Le prince Louis se sentait plein d'idées. Il avait autant de génie politique que pas un de ses rivaux. Il entendait la question d'amélioration. Il ralliait le clergé au peuple pour former une de ces solides majorités qui gouvernent longtemps par la force et par le droit. Mettre à la tête de ce mouvement de réforme la reine qu'il adorait et dont il eût changé la désaffection toujours croissante en une popularité sans égale, tel était le rêve du prélat. Et ce rêve, un seul mot tendre de la reine Marie-Antoinette pouvait le changer en réalité. Alors l'étourdi renonçait à ses faciles triomphes, le mondain se faisait philosophe, l'oisif devenait un travailleur infatigable. C'était une tâche aisée pour les grands caractères que de changer la pâleur des débauchés contre la fatigue de l'étude. Monsieur de Rohan fut allé loin, traîné par cet attelage ardent que l'on nomme l'amour et l'ambition. Il se mit à l'œuvre dès son retour à Paris, brûla d'un coup une caisse de billets amoureux, appela son intendant pour ordonner des réformes, fit tailler des plumes par un secrétaire pour écrire des mémoires sur la politique de l'Angleterre qu'il comprenait à merveille, et depuis une heure au travail, il commençait à rentrer dans la possession de lui-même lorsqu'un coup de sonnette l'avertit dans son cabinet qu'une visite importante lui arrivait. Un huissier parut. « Qui est là ?» demanda le prélat. « La personne qui a écrit ce matin à Monseigneur. »« Sans signer. »« Oui, Monseigneur. »« Mais cette personne a un nom. Demandez-le-lui. » L'huissier revint le moment d'après. « Monsieur le comte de Cagliostro, » dit-il. Le prince tressaillit. « Qu'il entre. » Le comte entra. Les portes se refermèrent derrière lui. « Grand Dieu !» s'écria le cardinal. « Qu'est-ce que je vois ?» N'est-ce pas, monseigneur, dit Cagliostro, avec un sourire, que je ne suis guère changé. Est-il possible, murmura monsieur de Rohan, Joseph Balsamo, vivant, lui qu'on disait mort dans cet incendie, Joseph Balsamo, comte de Phénix, vivant, oui, monseigneur, et vivant plus que jamais. Mais, monsieur, sous quel nom vous présentez-vous alors, et pourquoi n'avoir pas gardé l'ancien? Précisément, monseigneur, parce qu'il est ancien, et qu'il rappelle à moi d'abord, aux autres ensuite, trop de souvenirs tristes ou gênants. Je ne parle que de vous, monseigneur. Dites-moi, n'eussiez-vous pas refusé la porte à Joseph Balsamo? Moi, mais non, monsieur, non. Et le cardinal, encore stupéfait, n'offrait même pas un siège à Cagliostro. C'est qu'alors, reprit celui-ci, votre éminence a plus de mémoire et de probité que tous les autres hommes ensemble. Monsieur, vous m'avez autrefois rendu un tel service, n'est-ce pas, monseigneur, interrompit Balsamo, que je n'ai pas changé d'âge et que je suis bien bel échantillon des résultats de mes gouttes de vie. Je le confesse, monsieur, mais vous êtes au-dessus de l'humanité, vous qui dispensez libéralement l'or et la santé à tous. La santé, je ne dis pas, monseigneur, mais l'or, non, oh, non pas. Vous ne faites plus d'or? Non, monseigneur. Et pourquoi? Mais parce que j'ai perdu la dernière parcelle d'un ingrédient indispensable de mon maître, le sage Altotas, qui me l'avait donné après sa sortie d'Égypte. La seule recette que je n'ai jamais eue en propre. Il l'a gardée? Non, enfin, c'est-à-dire oui, gardée ou emportée dans le tombeau, comme vous voudrez. Il est mort? Je l'ai perdu. Comment n'avez-vous pas prolongé la vie de cet homme, indispensable receleur de l'indispensable recette, vous qui vous êtes gardé vivant et jeune depuis des siècles à ce que vous dites? Parce que je puis tout contre la maladie, contre la blessure, mais rien contre l'accident qui tue sans qu'on m'appelle. Et c'est un accident qui a terminé les jours d'Altotas. Vous avez dû l'apprendre, puisque vous saviez ma mort à moi. Ah, cet incendie de la rue Saint-Claude dans lequel vous avez disparu a tué Altotas tout seul, ou plutôt le sage, fatigué de la vie, a voulu mourir. C'est étrange. Non, c'est naturel. Moi, j'ai songé 100 fois à en finir de vivre à mon tour. Oui, mais vous y avez persisté cependant. Parce que j'ai choisi un état de jeunesse dans lequel la belle santé, les passions, les plaisirs du corps me procurent encore quelques distractions. Altotas, au contraire, avait choisi l'état de vieillesse. Il fallait qu'Altotas fît comme vous. Non pas, il était un homme profond et supérieur, lui. De toutes les choses de ce monde, il ne voulait que la science, et cette jeunesse au sang impérieux, ses passions, ses plaisirs, l'eussent détourné de l'éternelle contemplation. Monseigneur, il importe d'être exempt toujours de fièvre. Pour bien penser, il faut pouvoir s'absorber dans une somnolence imperturbable. Le vieillard médite mieux que le jeune homme aussi. Quand la tristesse le prend, n'y a-t-il plus de remède? Altotas est mort, victime de son dévouement à la science. Moi, je vis comme un mondain, je perds mon temps, je ne fais absolument rien, je suis une plante, je n'ose dire une fleur, je ne vis pas, je respire. Oh, murmura le cardinal, avec l'homme ressuscité, voilà tous mes étonnements qui renaissent. Vous me rendez, monsieur, à ce temps où la magie de vos paroles, où le merveilleux de vos actions doublait toutes mes facultés et rehaussait à mes yeux la valeur d'une créature. Vous me rappelez les deux rêves de ma jeunesse. Il y a 10 ans, savez-vous, que vous m'avez apparu. Je le sais, nous avons bien baissé tous deux, allez. Monseigneur, moi je ne suis plus un sage, mais un savant. Vous n'êtes plus un beau jeune homme, mais un beau prince. Vous souvient-il, monseigneur, de ce jour où, dans mon cabinet, rajeuni aujourd'hui par les tapisseries, je vous promettais l'amour d'une femme dont ma voyante avait consulté les blonds cheveux? Le cardinal pâlit, puis rougit tout à coup. La terreur et la joie venaient de surprendre successivement les battements de son cœur. Je me souviens, dit-il, mais avec confusion. Voyons, fit Cagliostro en souriant, voyons si je pourrais encore passer pour un magicien. Attendez que je me fixe sur cette idée. Il réfléchit. Cette blonde enfant de vos rêves amoureux, dit-il après un silence, où est-elle? Que fait-elle? Ah, parbleu, je la vois, oui, et vous l'avez vue aujourd'hui. Il y a plus encore, vous sortez d'auprès d'elle. Le cardinal appuya une main glacée sur son cœur palpitant. Monsieur, dit-il, si bas que Cagliostro l'entendit à peine, par grâce. Voulez-vous que nous parlions d'autre chose? Fit le devin avec courtoisie. Oh, je suis bien à vos ordres, monseigneur, disposez de moi, je vous prie. Et il s'étendit assez librement sur un sofa que le cardinal avait oublié de lui indiquer depuis le commencement de cette intéressante conversation. Le cardinal regardait faire son hôte d'un air presque hébété. Eh bien, fit celui-ci, maintenant que nous avons renouvelé connaissance, monseigneur, causons, si vous voulez. Oui, reprit le prélat, se remettant peu à peu, oui, causons de ce recouvrement que je vous indiquais dans ma lettre, n'est-ce pas? Votre éminence a hâte de savoir. Oh, c'était un prétexte, n'est-ce pas, à ce que je présume, du moins. Non, monseigneur, pas le moins du monde, c'était une réalité des plus sérieuses, je vous assure. Ce recouvrement vaut tout à fait la peine d'être effectué, attendu qu'il s'agit de 500 000 livres, et que 500 000 livres, c'est une somme. Et une somme que vous m'avez gracieusement prêtée même, s'écria le cardinal, en laissant apparaître sur son visage une légère pâleur. Oui, monseigneur, que je vous ai prêté, dit Balsamo, j'aime à voir, dans un grand prince comme vous, une si bonne mémoire. Le cardinal avait reçu le coup. Il sentait une sueur froide descendre de son front à ses joues. J'ai cru un moment, dit-il, en essayant de sourire, que Joseph Balsamo, l'homme surnaturel, avait emporté sa créance dans la tombe, comme il avait jeté mon reçu dans le feu. Monseigneur, répondit gravement le comte, la vie de Joseph Balsamo est indestructible comme l'est cette feuille de papier que vous croyez anéantie. La mort ne peut rien contre l'élixir de vie, le feu ne peut rien contre l'amiante. Je ne comprends pas, dit le cardinal à qui un éblouissement passait devant les yeux. Vous allez comprendre, monseigneur, j'en suis sûr, dit Cagliostro. Comment cela? En reconnaissant votre signature. Et il offrit un papier plié au prince, qui même avant de l'ouvrir s'écria: Mon reçu! Oui, monseigneur, votre reçu, répondit Cagliostro, avec un léger sourire, mitigé encore par une froide révérence. Vous l'avez brûlé, cependant, monsieur, j'en ai vu la flamme. J'ai jeté ce papier dans le feu, c'est vrai, dit le comte, mais comme je vous l'ai dit, monseigneur, le hasard a voulu que vous ayez écrit sur un morceau d'amiante au lieu d'écrire sur un papier ordinaire, de sorte que je l'ai retrouvé intact sur les charbons consumés. Monsieur, dit le cardinal avec une certaine hauteur, car il croyait voir dans cette représentation une marque de défiance, monsieur, croyez bien que je n'eusse pas renié ma dette sans ce papier, que je ne la renie avec ce papier. Aussi, vous avez eu tort de me tromper. Moi, vous tromper, monseigneur, je n'en ai pas eu un instant l'intention, je vous jure. Le cardinal fit un signe de tête. Vous m'avez fait croire, monsieur, dit-il, que le gage était anéanti. Pour vous laisser la jouissance calme et heureuse de 500 000 livres, répondit à son tour Balsamo, avec un léger mouvement d'épaule. Mais enfin, monsieur, continua le cardinal, comment, pendant 10 années, avez-vous laissé une pareille somme en souffrance? Je savais, monseigneur, chez qui elle était placée. Les événements, le jeu, les voleurs m'ont successivement dépouillé de tous mes biens, mais sachant que j'avais cet argent en sûreté, j'ai patienté et attendu jusqu'au dernier moment. Et le dernier moment est arrivé. Et la suite, monseigneur, de sorte que vous ne pouvez plus patienter ni attendre. C'est en effet chose impossible pour moi, répondit Cagliostro. Ainsi, vous me redemandez votre argent. Oui, monseigneur, dès aujourd'hui, s'il vous plaît. Le cardinal garda un silence tout palpitant de désespoir, puis, d'une voix altérée, Monsieur le comte, dit-il, les malheureux princes de la terre n'improvisent point des fortunes aussi rapides que vous autres, enchanteurs, qui commandez aux esprits de ténèbres ou de lumière. Oh, monseigneur, dit Cagliostro, croyez bien que je ne vous eusse point demandé cette somme si je n'avais su d'avance que vous l'aviez. J'ai 500 000 livres, moi, s'écria le cardinal. 30 000 livres en or, 10 000 en argent et le reste en bons de caisse. Le cardinal pâlit. Lesquels sont là dans cette armoire de boules? Continua Cagliostro. Monsieur, vous savez cela? Oui, monseigneur, et je sais aussi tout ce qu'il vous a fallu faire de sacrifices pour vous procurer cette somme. J'ai ouï dire même que vous aviez acheté cet argent 2 fois sa valeur. Oh, c'est bien vrai cela. Mais, s'écria le malheureux prince, mais moi, monseigneur, continua Cagliostro, depuis 10 ans, j'ai 20 fois failli mourir de faim ou d'embarras à côté de ce papier qui représentait pour moi 500 000. Et cependant, pour ne point vous troubler, j'ai attendu. Je crois que nous sommes à peu près quittes, monseigneur. Quitte, monsieur, s'écria le prince. Oh, ne dites pas que nous sommes quittes, puisqu'il vous reste l'avantage de m'avoir si généreusement prêté une somme de cette importance. Quitte, oh, non, non, je suis et demeurerai éternellement votre obligé. Seulement, monsieur le comte, je vous demande pourquoi vous, qui pouviez depuis 10 ans me redemander cette somme, vous avez gardé le silence. Pendant ces 10 ans, j'eusse eu 20 fois l'occasion de vous rendre cet argent sans me gêner. Tandis qu'aujourd'hui, demanda Cagliostro, oh, aujourd'hui, je ne vous cache point, s'écria le comte, que cette restitution que vous exigez, car vous l'exigez, n'est-ce pas? Hélas, monseigneur, eh bien, me gêne horriblement. Cagliostro fit de la tête et des épaules un petit mouvement qui signifiait « Que voulez-vous, monseigneur? Cela est ainsi et ne peut être autrement. » Mais vous qui devinez tout, s'écria le prince, vous qui savez lire au fond des cœurs et même au fond des armoires, ce qui quelquefois est bien pis, vous n'en êtes probablement pas à apprendre pourquoi je tiens tant à cet argent et quel est l'usage mystérieux et sacré auquel je le destine. Vous vous trompez, monseigneur, dit Cagliostro d'un ton glacial. Non, je ne m'en doute pas, et mes secrets à moi m'ont rapporté assez de chagrin, de déception et de misère pour que je n'aille point m'occuper des secrets d'autrui, à moins qu'ils ne m'intéressent. Il m'intéresserait de savoir si vous aviez de l'argent ou si vous n'en aviez pas, attendu que j'avais de l'argent à réclamer de vous. Mais sachant une fois que vous aviez cet argent, peu m'importait de savoir à quoi vous le destiniez. D'ailleurs, monseigneur, si je savais en ce moment la cause de votre embarras, elle me paraîtrait peut-être fort grave et tellement respectable que j'aurais la faiblesse de temporiser encore, ce qui, dans les circonstances présentes, je vous le répète, m'occasionnerait le plus grand préjudice. Je préfère donc l'ignorer. Oh, monsieur, s'écria le cardinal, dont ces dernières paroles venaient de réveiller l'orgueil et la susceptibilité, ne croyez pas au moins que je veuille vous apitoyer sur mes embarras personnels. Vous avez vos intérêts, ils sont représentés et garantis par ce billet. Ce billet est signé de ma main, c'est assez. Vous allez avoir vos 500 000 livres. Cagliostro s'inclina. Je sais bien, continua le cardinal, dévoré par la douleur de perdre en une minute tant d'argent péniblement amassé, je sais, monsieur, que ce papier n'est qu'une reconnaissance de la dette et ne fixe pas d'échéance au paiement. Votre éminence veut-elle m'excuser? Répliqua le comte, mais je m'en rapporte à la lettre de ce reçu et j'y vois écrit: je reconnais avoir reçu de monsieur Joseph Balsamo la somme de 500 000 livres que je lui paierai sur sa première demande, signée Louis de Rohan. Le cardinal frissonna de tous ses membres. Il avait oublié non seulement la dette, mais encore les termes dans lesquels elle avait été reconnue. Vous voyez, monseigneur, continua Balsamo, que je ne demande pas l'impossible, moi. Vous ne pouvez pas, soit, seulement, je regrette que votre éminence paraisse oublier que la somme a été donnée par Joseph Balsamo, spontanément, dans une heure suprême, et cela à qui? À monsieur de Rohan, qu'il ne connaissait même pas. Voilà, ce me semble, un de ces procédés de grand seigneur que monsieur de Rohan, si grand seigneur de toute manière, eût pu imiter pour la restitution. Mais vous avez jugé que cela ne devait point se faire ainsi. N'en parlons plus. Je reprends mon billet. Adieu, monseigneur. Et Cagliostro ploya froidement le papier et s'apprêta à le remettre dans sa poche. Le cardinal l'arrêta. Monsieur le comte, dit-il, un Rohan ne souffre pas que personne au monde lui donne de leçons de générosité. D'ailleurs, ici, ce serait tout simplement une leçon de probité. Donnez-moi ce billet, monsieur, je vous prie, afin que je le paie. Ce fut Cagliostro alors qui, à son tour, parut hésiter. En effet, le visage pâle, les yeux gonflés, la main vacillante du cardinal semblaient émouvoir en lui une compassion très vive. Le cardinal, tout fier qu'il fût, comprit cette bonne pensée de Cagliostro. Un moment, il espéra qu'elle serait suivie d'un bon résultat, mais soudain, l'œil du comte s'endurcit, un nuage courut sur ses sourcils froncés, et il tendit la main et le billet au cardinal. Monsieur de Rohan, frappé au cœur, ne perdit pas un instant. Il se dirigea vers l'armoire qu'avait signalé Cagliostro et en tira une liasse de billets sur la caisse des eaux et forêts. Puis il indiqua du doigt plusieurs sacs d'argent et tira un tiroir plein d'or. Monsieur le comte, dit-il, voici vos 500 000 livres. Seulement, je vous dois encore à cette heure 250 000 autres livres pour les intérêts, en admettant que vous refusiez l'intérêt composé, qui ferait une somme plus considérable encore. Je vais faire les comptes par mon intendant et vous donner des sûretés pour ce paiement, en vous priant de vouloir bien m'accorder du temps. Monseigneur, répondit Cagliostro, j'ai prêté 500 000 livres à monsieur de Rohan. Monsieur de Rohan me doit 500 000 livres et pas autre chose. Si j'eusse désiré des intérêts, je les eusse stipulés dans le reçu. Mandataire ou héritier de Joseph Balsamo, comme il vous plaira, car Joseph Balsamo est bien mort, Je ne dois accepter que les sommes énoncées dans la reconnaissance. Vous me les payez, je les reçois et vous remercie en vous priant d'accepter mes respectueuses révérences. Je prends donc les billets, monseigneur, et comme j'ai instamment besoin de la somme tout entière, dans la journée, j'enverrai prendre l'or et l'argent que je vous prie de me tenir prêt. Et sur ces mots, auxquels le cardinal ne trouvait rien à répondre, Cagliostro mit la liasse de billets dans sa poche, salua respectueusement le prince, aux mains duquel il laissa le billet, et sortit. Le malheur n'est que pour moi, soupira monsieur de Rohan, après le départ de Cagliostro, puisque la reine est en mesure de payer, et qu'à elle au moins un Joseph Balsamo inattendu ne viendra pas réclamer un arriéré de 500 000 livres.